Courant d'air
au-delà des frontières.
Bonjour à tous, nous sommes de retour sur l'émission Courant d'air. Je suis Camille, votre guide de voyage du côté français, et je vous laisserai ensuite au Québec avec Enora. Notre prochaine destination, l'Espagne. Nous commençons d'un point de vue frontalier, en compagnie de Gabrielle, étudiante en médiation culturelle et communication internationale à Nantes. Elle étudie les relations franco-espagnoles et va nous raconter son voyage en Galice, où elle a été assistante de langue, puis ses 6 mois dans le sud de l'Espagne en tant qu'Erasmus. Alors bonjour Gabrielle, comment s'est passée ton arrivée en Espagne ?
Déjà, quand je suis arrivée pour la première fois en Espagne, je suis pas arrivée dans une région, cliché de l'Espagne, parce que quand on pense à l'Espagne, la plupart du temps on se dit les stations balnéaires, le soleil, la plage, les taureaux, les olives, c'est trop bien. Moi j'ai choisi de partir en Galice. Tout le monde m'a posé la question, mais pourquoi tu pars en Galice? C'est une des régions les plus pauvres d'Espagne, il pleut tout le temps, c'est la façade atlantique, il fait froid, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Parce que moi cette région m'intéressait. Ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était le mélange entre la culture celtique. Qu'on appelle la Galice, la petite Bretagne espagnole, et cette culture espagnole. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surprise par le taux d'humidité déjà, parce qu'il faisait pas forcément froid, mais il pleuvait tout le temps. Et du coup, j'étais assez surprise. Et deuxièmement, parce que je pensais que on a l'image de l'espagnol brun, mat. Et ben non, là-bas, il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus. Et j'étais vraiment surprise, en me baladant dans les rues, je me disais, c'est pas vrai, je suis en Espagne ou pas? Et puis surprise surtout par le rythme de vie, parce que on connaît bien l'histoire de la sieste espagnole et tout ça, mais en fait, on les voit aussi un peu comme des paresseux, mais en fait, ils sont pas paresseux du tout, les Espagnols. Hein. Ils travaillent beaucoup, il y en a qui ont même 2 boulots, vu la situation économique là-bas, voilà. Donc ils se lèvent pour aller au boulot à 8h du matin, c'est-à-dire qu'ils se lèvent à 6h, mais ils travaillent non-stop jusqu'à 14h. À 16-17h, ils sont quand même là pour bosser jusqu'à 22-23h, quoi. Donc déjà, il a fallu s'adapter à ces rythmes-là. C'est un certain temps d'adaptation, quand même.
Ronaldinho, Piquinho.
J'ai commis un montant, ya. Tu non m'as visto, pero yo me.
Tu as donc voyagé dans le nord, puis dans le sud de l'Espagne. Quelles ont été les principales différences que tu as pu noter là-bas?
Entre le nord et le sud, déjà, il y a quelque chose qui m'a frappé en discutant avec, déjà, d'une part, les Galiciens, et ensuite, les extrémenios, comme on les appelle, les gens d'Extrémadure, c'est qu'il y a les mêmes préjugés qu'en France. C'est-à-dire dans le nord, il fait pas beau, il pleut et puis ils bossent tout le temps. Et ils sont tristes, quoi. Et dans le sud, ils font la fête, ils travaillent pas du tout, c'est des gros flemmards, puis en plus, il fait super chaud. La différence, oui, je l'ai vue dans le climat. Rien à voir. Même si ça reste l'Espagne et que c'est pas des températures extrêmement froides, mais en Galice, je me souviens, il a beaucoup plu. Il a fait assez frais. Mais il s'est resté doux en général, alors que en Extrémadure, il a fait froid et sec, et puis d'un coup, il a fait chaud, quoi. Passé mars, on va dire, il a commencé à faire très très beau. Je l'ai vu aussi dans l'histoire, parce qu'ils n'ont pas du tout la même histoire c'est deux communautés différentes, et comme c'est les communautés autonomes qui gèrent un peu la ville, c'est deux façons de gérer différentes. Au niveau des façons de faire la fête aussi, les carnavals n'étaient pas du tout les mêmes. Ouais, puis au niveau surtout de, par exemple, la Semaine Sainte, c'est très très connu. Dans le sud de l'Espagne, ils sont très très pieux, notamment la Semaine Sainte de Séville, elle est très très connue avec toutes les processions, tout ça, ces espèces de gens qui se trimballent avec le bonnet à la mode Ku Klux Klan, quoi. Et à Badajoz, je l'ai bien vu, alors qu'en Galice, je l'avais pas vu du tout. Les processions, il y en avait, mais elles sont restées assez discrètes, alors que dans le sud, c'est vraiment 3 jours. Où il y avait des processions avec des saints qui se baladaient partout. Je me souviens d'un soir, on était sortis prendre un verre, et en rentrant, il devait être 3h du matin, on passe dans une rue perpendiculaire, et donc dans la rue perpendiculaire à celle dans laquelle on le passait, on a tourné la tête, et il y avait 2 processions, avec des gens avec des bonnets. Il y en avait, alors côté gauche, c'était des bonnets blancs, côté droite, c'était des bonnets rouges, et ils se faisaient face à face dans un silence total. il y avait les deux effigies de la Vierge Marie, bon, différentes bien sûr, mais qui se faisaient face. Et je te jure qu'ils étaient dans des rangs super ordonnés, avec leurs bonnets, en train de se faire face à face. Il était 3h du matin, il n'y avait pas un pet de bruit. Ça nous a fait peur, quoi. Bon, après, moi, je ne suis pas pratiquante, donc il y a des choses que j'ai pas très bien compris dans la Semaine Sainte. Mais bon, c'était quand même assez impressionnant de voir tout le monde qui sortait, le monde que ça attirait, et puis bah, toute la ferveur religieuse, quoi. Donc là, c'était une différence entre le Nord et le Sud assez frappante, ouais.
Et c'est marrant parce qu'on est des voisins, enfin, on est des pays voisins entre la France et l'Espagne, on se touche et on a longtemps et on partageait une histoire. Mais quelles sont les différences culturelles aussi qui t'ont frappé, notamment, tu parles de la religion par exemple, politique peut-être, est-ce que la religion a plus d'influence sur la politique en Espagne qu'en France ?
Alors, tout ça, ça mériterait de longues études dessus. Hein. C'est un peu ce que font les profs à la fac en politique culturelle, hein, dans certains de nos cours. C'est passionnant. Après, je ne pense pas avoir une connaissance assez approfondie de la politique française et espagnole pour en parler, justement. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours frappée, c'est la relation qu'on a à notre État en tant que citoyen. En France, on a la grève facile. On jouit de cette réputation, notamment en Espagne, de pays des droits de l'homme et tout ça. Je sais pas combien de fois, justement, au cours de mon assistanat, ils avaient une matière, mes élèves, européenne, dans laquelle j'intervenais, c'était l'histoire. Et j'ai dû faire un cours sur la Révolution française. Parler du clergé, du tiers-état et tout ça, à des élèves d'espagnol, des élèves espagnols qui avaient une connaissance assez partielle dessus. Mais voilà, on leur rabat les oreilles. La France est grande, la France pays des droits de l'homme, la République et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, en fait, il y a eu des républiques, mais on parle plus volontiers d'État espagnol que de République ou de démocratie espagnole, parce que, bon, les régimes n'ont pas cessé de changer. Et d'ailleurs, une de mes profs nous a souligné la dernière fois, lors d'un cours, que la dictature de Franco, ils en parlaient quasiment pas en histoire. Alors que c'est quelque chose de très très important. Au cours d'un sondage, il y a même un élève qui s'est trompé entre Pinochet et Franco, quoi. Donc ça craint. Donc il y a déjà cette différence culturelle de recul sur le passé, sur la politique. Les Espagnols, je me demande s'ils ont encore cette foi en la politique. Et ils pensent que voilà, tout ce qui est république, tout ce qui est pouvoir politique, c'est égal à corruption. Et ça, c'est dommage. Loin de là, on n'est pas tout blanc non plus. En France, il y a de la corruption partout aussi. Hein. Notre système social, il est peut-être nickel, mais il y a beaucoup d'argent qui part et on ne sait pas où quand même.
Qu'est-ce que tu as envie de conseiller aux gens qui veulent visiter l'Espagne ?
Personnellement, très personnellement, n'allez pas dans les stations balnéaires, les grosses villes comme... je sais pas, il y en a tellement... Barcelone, c'est très très beau, c'est très riche culturellement. Après, c'est une vitrine, c'est pas l'Espagne, c'est une partie de l'Espagne et c'est quand même très cosmopolite. Mais fuyez un peu toutes les stations balnéaires avec du béton partout, des campings et puis sol, playa et cocktail, quoi. J'ai fait pendant ma première... mon premier séjour en Espagne, j'ai fait 5-6 jours sur le chemin de Compostelle. C'était quelque chose que je voulais faire. Là encore, c'est très très touristique, mais il me semble que c'est un côté de l'Espagne qu'on découvre là, qui est très très intéressant. Il suffit de sortir un peu des sentiers battus et de rencontrer les vrais Espagnols. Je me suis perdue pendant ce chemin de Saint-Jacques, ce qui est très drôle parce qu'il y a des flèches jaunes partout, mais bon, j'ai quand même trouvé le moyen de me perdre. Et je me suis retrouvée devant une ferme, j'étais complètement perdue, il pleuvait, heureusement qu'il y avait un Espagnol avec moi, à chercher mon chemin. Et je me suis retrouvée face à une Galicienne de 80 ans qui avait plus de dents et qui m'a parlé en galicien. Et donc heureusement que l'Espagnol était avec moi parce que sinon j'aurais rien compris du tout. Et voilà, c'est ces choses-là qu'il faut découvrir. Je suis partie pendant mon deuxième séjour, du coup je suis partie 3 semaines sillonner un peu l'Espagne. Bon, n'ayant pas de voiture, c'était un peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, le train, c'est des très mauvaises qualités, ça dessert très très mal. Ils préfèrent prendre l'avion entre deux villes plutôt que de prendre le train. Et puis les bus, c'est pareil, c'est assez compliqué. En général, c'est le bordel. Il faut vraiment être bien renseigné pour prendre un bus. Nous, on nous a conseillé une ligne de bus pour rejoindre de Badajoz à... Cadiz, je crois, qui n'existait plus. Enfin voilà, que des choses comme ça. Mais il faut surtout avoir une voiture, j'imagine, visiter les petits villages, pas si touristiques que ça, surtout profiter de la gastronomie. Les olives sont excellentes, le jambon. éviter les attrapes touristes, pareil pour la nourriture. Et puis, si on peut se faire inviter dans des familles espagnoles.
Est-ce qu'ils sont accueillants, les Espagnols en général ?
Alors moi, je les trouve très très accueillants. Il y a un côté très famille là-bas et il suffit de très peu pour se faire accepter par les mamans, quoi, et puis les papas du coup, et les familles en général. Bon, après, la différence majeure entre le Nord et le Sud, que moi j'ai senti, que les gens du Nord sont très accueillants, mais il faut le temps vraiment d'entrer en contact avec eux, d'avoir leur confiance. Mais bon, une fois que tu es dans leur cercle, tu n'en sors plus. Alors que dans le Sud, ils sont réputés pour avoir des grandes gueules, et c'est le cas. Tout de suite, c'est ton pote. Tu rencontres quelqu'un, c'est ton pote. Mais alors, le lendemain, il peut t'avoir complètement oublié. Mais bon, c'est pareil. C'est les Espagnols, je pense que, globalement, une fois qu'ils t'ont adopté, t'es leur ami toute la vie. Voilà, il y a cette différence un peu de temps pour accorder sa confiance. Ils sont très faciles d'accès, ça dépend. Parce que là encore, j'étais choquée en Galice. Moi, je suis arrivée avec l'idée que l'Espagne, c'était très ouvert, très sympathique. Le côté un peu, l'histoire de l'anarchie espagnole et tout ça. Oh, super, la gauche, tout ça. Mais en fait, non, il y a toute une partie qui est très conservatrice. Pendant que j'étais en Espagne, là encore, il y a eu des scandales sur l'avortement, l'interdiction à l'avortement. Des histoires aussi sur le fait que... l'Espagne n'est pas un pays laïque, c'est un pays à confessionnal. Sans confession, en fait. C'est écrit dans la Constitution. Du coup, tu dois avoir une confession religieuse. Et donc, ils voulaient forcer les élèves à suivre l'histoire de la religion à l'école. Parce que c'était censé leur rapporter plus de points pour le bac. Donc, il y a eu toute une polémique dessus. Parce que tu avais le choix entre l'éducation civique et la religion. Et on poussait les élèves à choisir la religion. Donc voilà, là-dessus... Et donc en Galice, je me suis rendu compte que beaucoup d'Espagnols étaient racistes. Il y avait beaucoup de migrants qui venaient du sud de l'Espagne, qui remontaient pour passer en France ou pour passer au Royaume-Uni, et donc ils vendaient des choses dans la rue. Et j'avais notamment un de mes colocataires, je vivais avec trois garçons à l'époque, qui avait des réflexions très très, très racistes. De toute façon, j'aime pas les Noirs et tout ça... Et ça m'avait choquée, parce que finalement, on pense à l'Espagne comme fête, intégration, tout le monde s'aime et tout ça, mais en fait, non. Ils sont très, très conservateurs sur certains points.
À présent, pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons écouter le groupe Caravan, La Canción del Verano, un groupe de multinationalité qui compose ses chansons en français et en espagnol.
La canción del verano, cuando sale el sol y que la gente se queda tumbada, crema contra arena, mirando aviones y de vez en cuando mirando al vecino. Moi,
Mélodie.
Salut.
T'es allée en Espagne, toi, en août dernier, il me semble.
Oui, c'est ça, fin d'août dernier.
Vous aviez bien programmé votre voyage avant de partir ou ça s'est fait un petit peu à l'arrache comme ça en pack-sac?
En fait, on avait prévu, avant de partir, nous, en parlant de moi et Jessica, qui est ma meilleure amie, donc on a décidé de partir, on avait tout prévu, mais finalement, on a tout chamboulé ou presque rendu là-bas parce qu'on est allé, je vous raconte ça rapidement, on est allé à Ibiza et on n'a vraiment pas aimé Ibiza parce que les clubs, les grosses fêtes, puis la foule où tu peux pas respirer, c'est vraiment pas notre genre. Donc, on a décidé de partir une journée plus tôt, ce qui a tout chamboulé notre voyage. Et puis, on a décidé d'aller faire la Tomatina, qui est une grande bataille de nourriture où on se lance des tomates. C'est dans les rues, j'ai oublié la ville, mais c'est juste à côté de Valencia, qui elle est une grande ville d'Espagne. Donc la Tomatina, c'est connu à travers le monde, mais surtout très populaire chez les Espagnols, c'est au mois d'août. On se rencontre dans les rues de ce petit village et on se lance des tonnes et des tonnes de tomates.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué pendant ton voyage?
Moi, ce qui m'a marqué le plus, je pense que c'est le rythme de vie des gens, qui est très difficile, qui est très différent, pardon, que celui du Québec. Moi, j'adorais la sieste l'après-midi. Oh mon Dieu, que j'aimais ça. Nous, on en profitait. Dans le fond, notre horaire à nous de voyageuses, eh bien, on se levait vers 11h midi parce qu'on avait fêté la veille. On allait visiter jusqu'à 3-4 heures. Vers 4 heures, on dormait jusqu'à 6 heures. Et puis là, on se levait. Et là, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que nous, à 6 heures, c'est déjà l'heure de souper. Mais là-bas, c'est pas l'heure tout de suite de souper. Donc, on continuait à visiter jusqu'à 7-8 heures. Ensuite, on allait se préparer. On allait souper vers 9 heures. Et ensuite, on sortait. Nous, les bars ici ferment à 2 heures, 3 heures. Là-bas, ils commencent à sortir à 2 heures, 3 heures. Donc, nous, c'était difficile pour nous de rester réveillés jusqu'à cette heure-là parce qu'on est habitués d'aller se coucher. Donc, à 2 heures, on commençait déjà à être fatigués. Une chance qu'on avait fait notre sieste. Et là, on était capable de fêter jusqu'à 4-5 heures du matin. On allait se coucher vers 5 heures, 6 heures et on recommençait le lendemain. Donc, c'est sûr que c'est le rythme de vie d'une voyageuse. Mais reste que les siestes et le souper qui est très tard, c'est commun des Espagnols et j'ai vraiment adoré ce rythme de vie-là.
Mais c'est vrai que c'est un peu les deux extrêmes aussi. Parce que si on regarde ici au Canada, les gens en fait mangent très tôt le soir.
Ouais, moi je suis de ceux qui mangent tard et on mange vers 7h, 7h30. Quand en Europe, c'est de ceux qui mangent soit tôt ou à l'heure habituelle, là, je sais pas trop.
Ouais, 7h30, à peu près 8h. Par rapport aux opinions, aux préjugés qu'on peut avoir aussi par rapport aux Espagnols, à l'Espagne. Enfin, je sais qu'en France, nous, on dit « Ah, les Espagnols, caliente », on dit des trucs comme ça, là, qui parlent très fort, qui sont chauds, qui sont... Voilà.
Ouais.
Vous avez le même point de vue ici au Québec par rapport à eux, que vous y soyez allés ou pas?
Oui, ben le point de vue, c'est ça, beaucoup des fêtards, mais pas des fêtards dans le mauvais sens, des fêtards des gens qui aiment faire la fête et puis qui aiment danser, qui aiment bouger, puis c'est vraiment ce qu'on a ici, puis c'est un peu ce que j'ai vu aussi. Faut dire que moi je me tenais beaucoup dans les auberges jeunesse, donc j'étais comme dans ce que j'aime appeler la bulle touristique, donc j'ai rencontré plus d'étrangers d'autres pays, comme des Français, des Anglais, des Australiens, plus de touristes que de vrais Espagnols. Reste que j'en ai quand même vu beaucoup. Quand j'étais à Madrid, ma chambre dans les hostels, c'était presque juste des Espagnols. Et puis, moi, je comprends pas l'espagnol.
Cosa rara, lo sé, pero sí que es verdad que me salen algunos dejes y se me nota un poquito el acento, pero no sé.
Donc, bien sûr, ils parlaient très, très fort et puis on s'entendait presque plus parler. Des fois, ils rentraient aussi très, très tard. Nous, on était à la fin de notre voyage, on était un peu épuisés. Donc, on rentrait un peu plus tôt, mais c'était toujours eux qui rentraient les plus tard. Et puis, ce que j'ai remarqué, je veux pas généraliser non plus, mais nous, les Espagnols, un peu comme les Grecs, ont la réputation d'être très dragueurs, de flirter beaucoup. Et ça, moi, j'ai remarqué que c'était vrai, surtout qu'ils venaient nous flirter puis que je comprenais pas ce qu'ils disaient. Donc, des fois, je me rendais compte que j'étais peut-être en train de m'embarquer dans une histoire ça me tentait pas trop de m'embarquer là-dedans. Donc, juste à essayer de baragouiner quelque chose, des fois, je me rendais compte que, il a compris que je le suivais à l'hôtel, mais Non, je m'en vais à mon hôtel. Donc oui, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des Espagnols et de me rendre compte que finalement, je pensais qu'on faisait juste parler pour parler, mais qu'ils me draguaient. Donc j'ai trouvé que ce trait-là, mignon quand même, des Espagnols, était très véridique.
Et est-ce que les Espagnols connaissent les Québécois, savent où est le Québec et savent ce que ça veut dire par rapport au Canada?
J'ai pas beaucoup parlé à des Espagnols du Québec à cause de la barrière de la langue. Donc, quand je les rencontrais, souvent, on essayait de baragouiner quelque chose, mais on n'a pas vraiment réussi à se parler beaucoup. Je pourrais peut-être plus te parler des autres nationalités que j'ai rencontrées. Je te dirais que la plupart connaissaient le Québec. en avait entendu parler. Je pense qu'on est quand même un coin du monde qui est très populaire pour son côté souverainiste, puis tout ça. Je pense qu'on est de ceux dont on a entendu quand même parler beaucoup. Plusieurs me disaient, quand je leur parlais, « Oh, you're French Canadian, t'es une Canadienne française. » Et moi, je leur répondais, « Oui, je suis québécoise. » Puis après ça, des fois, il y en a qui me disaient « Ah, mais c'est sûr, t'es French Canadian, tu viens du Québec. » Non, non, il y a des Français ailleurs au Québec. Donc même des fois, je leur expliquais même qu'on n'était pas les seuls francophones au Canada. Donc ouais, ouais, on connaissait le Québec pour les francophones qui vivent dans un pays anglophone, je dirais.
Mm-hmm. Ouais. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, parce que des fois, certains Québécois ont tendance à penser qu'ils sont tout seuls ou qu'ils sont les seuls francophones au Canada, ce qui est plutôt vexant pour les autres.
Oui, effectivement, surtout que les autres sont encore dans une plus grande bataille que nous. Nous, même si c'est pas acquis, c'est quand même mieux protégé, disons, qu'ailleurs au Canada. Donc, c'est quand même assez important, je trouve, de parler des autres et puis de servir un peu d'ambassadeur, pas seulement pour le Québec, mais pour tous les Canadiens français.
Et pour en revenir à l'Espagne, par rapport au climat, est-ce que toi, ça t'a atteinte?
Oh mon Dieu, il faisait tellement chaud. L'endroit le plus chaud, c'était Séville. Il faisait, je pense, 42 degrés Celsius dehors. Nous, on est habitués, l'été, quand il fait 30, il fait très chaud. Donc oui, je dirais que je me suis quand même habituée. Mais le soir, moi, la première fois que je rentre dans l'hostel, je me dis, ah, oh, il me donne juste un drap, tu sais. Moi, je suis habituée de dormir avec une grosse couverte, tu sais.
Une grosse couverture.
Une grosse couverture, ouais, c'est ça. Puis là, je me dis, ah, oh, juste un drap. Mais là, après la première nuit, je me suis rendu compte que juste le petit drap, c'était en masse parce qu'il faisait tellement chaud. Et puis, il y a une fois, on est arrivé à notre hostel vers 3h du matin, donc on pouvait pas tout de suite rentrer, il fallait attendre, donc on était allé dormir dans un parc. Et puis, tu sais, c'est la nuit, il n'y a pas de soleil, mais on cuisait sur place, même s'il faisait noir. Ah oui, donc la chaleur, ça m'a vraiment marqué. Mais je me suis habituée quand même assez vite. Jess a eu un peu plus de difficultés que moi, mais ça s'est quand même bien passé. Oui.
Ouais, et puis bon, vous êtes quand même habitué à des drops et puis que les températures remontent comme ça super rapidement. En fait, en 2 mois et demi, on a perdu au moins 30 degrés.
Oui, c'est ça. Mais on est habitué à des chutes vers le bas, pas vers le haut. Moins 40, je suis plus habituée qu'un 40.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est plus facile ajouter des couches de vêtements. À un moment donné, tu peux juste plus en enlever. Là. Tu te dis, ben là, j'ai pas le choix de garder mon chandail, mais j'ai quand même chaud.
Ton chandail, tu veux dire, c'est ton t-shirt.
Oui, c'est ça, exactement, oui.
Est-ce qu'il y a un coup de cœur particulier, un endroit en particulier qui t'a plu ou un aspect peut-être de la culture espagnole qui t'a particulièrement plu?
Moi, j'ai beaucoup aimé Granada. Ça a été ma ville préférée. J'ai adoré Séville aussi, mais encore... Mais Séville, on dirait que je m'attendais à aimer ça. Granada, j'avais aucune idée, j'avais plus exploré. Et puis, c'est à Granada vraiment que j'ai vraiment plus ressenti l'horaire des gens, là, comme que je parlais. La sieste était vraiment plus marquée. Séville, vu que c'est une grande ville, j'ai l'impression que les magasins restaient ouverts quand même si les gens dormaient, parce qu'il y en avait toujours qui étaient réveillés. Mais à Granada, vraiment, en 4h et 6h, presque tout était fermé. Donc, je trouvais qu'on pouvait vraiment plus voir ce mode de vie-là. Puis, bien sûr, probablement que vous en avez déjà entendu parler, une bière égale un tapas. Donc, une bière à 1,50€, c'est un tapas. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut pas ne pas aimer alcool et bière. Donc, j'ai adoré ce mix-là, ce mélange-là. Le lendemain matin, par exemple, quand j'avais un peu mal au foie, le lendemain soir, plutôt, je me suis rendu compte que un verre d'eau et égalait aussi tapas gratuit. Donc, la deuxième soirée, c'est ce que j'ai fait parce que la veille avait été un peu difficile. Mais oui, Granada, j'ai vraiment aimé, avec les montagnes aussi, le château d'Alhambra qui est magnifique. Puis c'est ça, le mode de vie des gens là-bas. J'ai vraiment adoré les petits restaurants de tapas, les routes qui ressemblent à des marchés piétonniers un peu. Là. Ça fait, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait vraiment penser à un marché à ciel ouvert avec... Il y a des choses partout, il y a des tissus de couleurs accrochés un peu partout, donc c'était vraiment beau.
Et sinon, bon, c'est un tableau un peu plus négatif peut-être, mais l'Espagne est en crise depuis quelques années.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, quand tu y es allée?
Non, c'est une situation économique que j'étais au courant, surtout avec mon travail de journaliste. Je l'ai vu beaucoup, mais je te dirais que on le voit pas. Je sais pas où ils sont, ces gens-là qui sont en problème financier et qui n'ont pas d'emploi, mais j'ai rarement vu d'itinérants, beaucoup moins, je te dirais, qu'à Ottawa, ou quand tu l'as sûrement remarqué, quand on passe sur King Edward, juste proche de la station ici, on se fait toujours demander pour de l'argent quand on attend l'autobus. C'est immanquable qu'on se fait harceler par des itinérants ou qu'on les croise sur le bord de la route pour en train de demander de l'argent. On voit aussi beaucoup de missions qu'on appelle, là, où les gens peuvent aller dormir et manger. Mais en Espagne, j'ai vu rien de tout ça. J'ai vu, je te dirais, en 3 semaines, je pense que j'ai vu une itinérante, parce que je me souviens de l'avoir remarqué en me disant, c'est la première que je vois.
Une itinérante, en fait, c'est une SDF.
Une sans-abri. Donc, ça m'a marqué à quel point, justement, ils cachaient bien le problème. Je sais pas si c'est caché ou mieux géré. Ça serait à voir, à enquêter peut-être. Puis, surtout à Séville, où on était, la guide nous avait dit qu'il y avait 50% de la population qui sort de l'université, qui sort de l'école, qui est sans emploi. Donc, je me suis dit, mais ils sont où?
OK, d'accord. Mais par rapport aux mouvements sociaux, il y en a eu beaucoup ces derniers temps?
Je l'ai vu, par rapport à la Catalogne, tu parles peut-être?
Oui, par exemple, les Catalans d'ailleurs sont des indépendantistes.
Mais les Catalans, moi, le mouvement pour le référendum non officiel, c'était après que je sois là. Et puis pendant que j'étais là, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu d'événement. La seule chose que j'ai vue, c'était à Granada, justement, une manifestation d'un syndicat. Mm-hmm. Donc, mais je t'avoue que je me suis pas informée plus que ça. C'était quoi, s'il était en négociation de travail, s'il était, j'en ai aucune idée. Mais non, j'ai pas remarqué tant que ça les mouvements sociaux, pas plus là, qu'ici au Canada. Là. Ouais.
Est-ce que il y a éventuellement un petit mot que tu souhaiterais faire passer à l'auditoire breton de Radio Campus Rennes?
À l'auditoire breton, ben moi je suis très contente de vous avoir découvert, parce que j'étais au courant de la Bretagne, et puis moi bien sûr j'étais de ceux là, honte à moi-même, qui vous connaissaient par la chanson Les chapeaux ronds, là, t'es breton là. Donc là je vais arrêter de chanter cette chanson.
Merci.
Et puis non, je suis très contente de connaître d'avoir découvert votre coin de pays, puis je vais aller faire un tour éventuellement, c'est sûr.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Courant d'air pour le Québec, c'est déjà fini. Merci beaucoup à nos invités, merci aux auditeurs, et puis merci aussi à DJ Bril qui a fait la musique de l'émission. Merci aussi à Claude qui chapeaute l'émission, et puis bien sûr merci à Camille pour l'entrevue, et puis à Claire pour le montage. On écoute maintenant Map Monde des Sœurs Boulet. Bonne semaine.
Ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis, c'est pas que t'es pas fier, mais ils comprendraient pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro, j'attendrai sagement les blackouts au cinéma, j'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Prie pas si je regarde mes emails toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire de sourd. Relâche tes doigts de sur le break-up. J'ai jamais voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Viens au matin pour tout me raconter. pas si je regarde mes emails. À toutes les heures de la journée, regarde-moi quand se prendre. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map de monde. Regarde-moi quand se prendre. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map de monde que je serai jamais ta blonde.